Ja.
C'est qui l'invité dans la chemise d'arrivure?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe! C'est qui l'invité dans la chemise d'arrivure?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus.
Oh non, y'a plus de café là.
Attends, on fait après les
missions. Le papier n'est pas imprimé là.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
C'est allez, bon. Dernière fois. Zou.
Allez les gars, courage.
Bonjour à toutes et à tous. On y va. Allez, c'est parti. À toutes et à tous, bienvenue dans Vivement, dans une heure à environ qu'on se couche, une émission avec les yeux un petit peu fermés. On est nombreux dans ce studio, Elsa, Gabriel, Chloé et puis une surprise. Alors on est vendredi, donc il y aura plein de sujets, c'est l'opulence aujourd'hui. Un sujet au Petit Carré d'Art avec la compagnie Zampa qui joue ce soir au Petit Carré d'Art. Donc le concert de Big Daddy Wilson, ça c'est Miwan Jazz et c'est demain. Elsa de Cour a assisté au vernissage d'une expo au lieu dit sur les sages de l'Inde. Et donc dans ce studio, à mes côtés, deux invités, Sarah et Nico de la compagnie Théâtre Molotov qui nous diront quelques mots sur Cocktail 7 que vous pourrez voir ou revoir mardi soir. Mais comme d'habitude, on commence tranquillement, le temps de finir notre petit café, d'ouvrir les yeux, avec Erwan qui a eu la drôle d'idée de rentrer dans la peau d'un CRS. Il paraît qu'il est mélomane.
J'en ai marre de taper en binaire, moi j'aime le bruit de la matraque, quand il frise la caisse claire, de belles chevelures délicates. Rien de mieux quand on se défoule qu'une longue tignasse de babacool, ça sonne quand même un peu mieux qu'un lascar à capuche en cheveux. Et pour le solo de trompette, une bonne gazeuse dans les mirettes, ça vous déclenche un bruit strident qui vous caresse les tympans. Dans le brouhaha de la manif, quand la sirène hurle dans la faune, sur les larmes de ce long riff, j'entends la voix de Sarah Vaughan. Je suis un CRS mélomane, un amoureux de John Coltrane. C'est pas parce que je joue du bourdin que je suis le dernier des bourrins. Je suis un CRS mélomane, quand j'entends ces slogans de cortège. Monocorde et sans âme, j'ai envie de coller mes arpèges. Donnez-moi un gros lard bien flasque pour me servir de contrebasse, que ma matraque joue de l'archer sur un gros qui peut pas se sauver. Et pour la guitare électrique, un coup de taser dans les parties, ça l'arsène à la Hendrix et vous avez le cœur qui frémit. Des bottes sur le pavé se mêlent au son des boucliers et que la gazeuse vous pique les yeux, moi j'atteins la menotte bleue et ça me donne la chair de poule, l'envie d'improviser un style, alors je cogne sur la foule comme un solo de Buddy Miles. Je suis un CRS mélomane, un amoureux de John Coltrane. C'est pas parce que je joue du bourdin que je suis le dernier. Quand j'entends ces slogans de cortège, monocorde et sans âme, j'ai envie de coller mes arpèges. Aïe. 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 Pas sur la tête. Si. Et Taser, il balbeur. Je suis un CRS mélomane, un amoureux de John Coltrane. C'est pas parce que je joue du bourdin que je suis le dernier des bourrins. Je suis un CRS mélomane. dans le cortège. Monocorde et sans âme, j'ai envie de coller les arpèges.
Erwan, le CRS Méloman, extrait du nouvel album Peau Rouge, un CD de la semaine que vous retrouverez avec la petite pochette sur notre site www.radiosaintafrique.com. Alors, ils ne sont pas dans la chemise à rayures, c'est étrange ça, hein ? Ils ne sont pas dans la chemise à rayures, c'est Sarah et Nico de la compagnie Théâtre Molotov qui vous repropose Cocktail 7 au Petit Carré d'Art mardi. Donc on va en reprendre une petite dose pour les nombreux spectateurs qui l'ont déjà vu. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bien réveillés ?
Ça va.
Un peu dur. Bien réveillés les comédiens. Alors tout à l'heure, avant de commencer l'émission, je vous disais que j'avais du mal à vous décrire comme comédien parce que je trouve ça un peu fade, un peu... Qu'est-ce que vous définiriez comment, vous ?
Bah, c'est vrai que dans la forme de théâtre qu'on fait, après avoir étudié la voix, étudié le corps, être devenu des comédiens, on a essayé de casser tout ça. Et donc c'est vrai que, enfin, en tout cas sur Cocktail 7, on joue parfois les mauvais comédiens, parfois on joue nous-mêmes, parfois on est vraiment comédien, mais on casse ce code-là totalement. Donc en soi, t'as tout à fait raison.
Ouais, vous dites que vous voulez perdre le spectateur. Sur Cocktail 7, c'est un peu difficile de raconter ce qui se passe. Est-ce que vous sauriez donner quelques billes aux auditeurs qui ne l'ont pas vu ?
On a quelques éléments, bien sûr.
Dis-nous, parce que, Nico.
On pourrait appeler ça un cabaret catastrophe.
Ah.
Donc, quelque chose qui parle du désastre hein, qui est autour de nous. Et donc... On se sert beaucoup du sous-titre pour parler de ce spectacle. Nous sommes de la piste dans une coupe à champagne. C'est surtout ça qui est important dans cette pièce. Cocktail 7, c'est l'objet Cocktail 7, c'est notre 7e création. Et donc, nous sommes cette piste dans cette coupe à champagne. Ce qui veut dire, il y a deux niveaux de lecture un petit peu. Il y a donc la mise en abîme de notre collectif. Comme disait Sarah, on joue pas, on est nous. On s'appelle Sarah, Nico, Tom, Hello. Et donc, on se positionne en tant que compagnie alternative, donc qui propose des choses qui sont là pour... qu'on est là aussi pour déranger, pour créer des scandales, pour bousculer un peu tout ça. La bien-pensance, le conformisme. Et donc, on se positionne dans cette société où il y a beaucoup de spectacles de divertissement, de spectacles très subventionnés, très friqués, très bien pensants. Donc, nous, on est un peu cette piste-là dans cette société champagne, hein, quelque part. Et on est un peu du théâtre du bas aussi, quelque part. On n'est pas encore la compagnie qui tourne, qui marche, qui... Voilà. Donc, il y a un peu ce niveau de lecture, cette mise en abîme de nous-mêmes. Et ensuite, le côté, bien sûr, universel, parce que ça, on parle de nous, mais c'est pour parler de tout le monde. Et donc, c'est assez universel dans aussi cette bêtise humaine qui plane autour de nous, cette médiocrité, donc cette pisse dans ce monde qui pourrait être une coupe à champagne. Mais malheureusement, on se comporte souvent... Enfin, l'humanité se comporte souvent comme de la pisse. Et donc, c'est un peu ça qu'on veut montrer.
Et jusqu'où vous allez aller dans ce refus ? Il y a le mot résistance qui revient souvent dans vos dossiers de presse et dans tout ce que vous racontez. Jusqu'où sont vos limites ? Il faut que vous soyez programmé quand même. Qu'est-ce que vous refusez ? Est-ce qu'il y a le mot compromis ? Est-ce que ça existe pour vous ? Et qu'est-ce que c'est d'être un théâtre résistant aujourd'hui ?
En soi, on ne se refuse rien. On n'est pas là pour se refuser quelque chose. On a ce besoin-là de faire un théâtre complètement explosé et complètement bousculant. On a besoin de casser les codes théâtraux, de casser les codes de la société bien-pensante. Et donc, c'est sûr qu'en faisant un théâtre comme on fait, on se ferme énormément de portes de théâtre. Mais c'est un choix. On n'a pas choisi de remonter un énième Shakespeare ou un énième Molière parce qu'on n'a pas envie d'aller chercher l'actualité dans Molière ou dans Shakespeare. Pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est se nourrir du monde, se nourrir de l'actualité et en être le reflet, parfois distordu, mais en tout cas, voilà, le monde est comme ça aujourd'hui, donc pour nous, le théâtre doit transpirer ce monde-là. C'est pour ça aussi qu'on fait un théâtre très fragmenté, comme le monde est fragmenté et comme l'info se fragmente. Donc on est dans cette recherche-là, donc on n'a pas de limite et on ne veut pas s'en donner.
Et les retours que vous avez sur Cocktail 7, donc que vous avez joué il y a plus d'un an, c'est ça ? Qu'est-ce que vous dit le public ? Parce que c'est quand même intense, on sort de là, on est secoué, enfin, c'est même assez faible le mot. Est-ce qu'il y a les gens qui réagissent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Les retours sont assez bons. C'est marrant parce que du côté public, les retours sont très bons. C'est du côté programmateur où les retours sont plus difficiles à avoir. Parce que comme je disais, et comme disait Nico, maintenant, dans les programmations actuelles, on cherche quelque chose qui divertit, qui soit assez lisse. Et on ne rentre pas dans ce cadre-là du tout. Mais par contre, au niveau du public, on a eu des retours totalement magnifiques et vraiment chouettes. Et on a eu aussi des retours de professionnels, enfin de comédiens, qui étaient... on a joué à Toulouse la semaine dernière, et donc il y avait des élèves du conservatoire de théâtre de Toulouse qui sont venus nous voir et ils nous ont dit « En ce moment, on étudie Molière, on étudie les classiques, on nous apprend à positionner notre corps, à positionner notre voix. » Et c'est un peu barbant tout ça. Mais après vous avoir vu, on comprend qu'on est obligé de passer par là et que plus tard, on pourra aller ailleurs. Aller casser ces codes-là, mais c'est important d'aller les trouver. Donc, que ce soit des pros ou du public, on a des retours très très chouettes. Maintenant, on attend les retours des salles.
Alors, il y a d'autres projets en cours. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, mais un nouveau spectacle, une nouvelle pièce, Olularia, qui sera jouée donc le 2 février à la Maison du Peuple, Kézako.
C'est pas du Molière, c'est du Plot, c'est du théâtre latin, c'est vraiment très 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 vieil auteur, donc on est pratiquement à l'essence même du théâtre. Donc c'est, cette fois-ci c'est Michel Géniaud encore qui nous suit souvent, et donc il a mis en scène La Lune des Pauvres, qui était un texte de Jean-Pierre Siméon, Maktoff aussi. Et donc là il nous a proposé, c'est quelque chose qui s'est fait avec la ville de Sagunto en Espagne, qui est jumelée avec la ville de Millau. Donc il y a eu un projet autour d'un festival du théâtre latin, c'est ça, gréco-latino, à Sagunto. Donc on a été invité à faire la pièce de clôture, c'était sur Alularia de Plot, c'est la marmite. Et donc Michel était allé là-bas l'année d'avant, il avait vu un peu ce qui se faisait. Et puis là c'était quand même devant 2000 personnes, donc il fallait faire quelque chose qui dépote. Et puis donc on l'a fait, et ça se rejoue à Millau dans deux semaines, c'est ça, le 2 février. Ouais.
Donc comme je disais tout à l'heure qu'on ne montait pas des Molières ou des Shakespeare, ça c'est une commande, et ce qui a été très intéressant, et c'est ça qui est chouette avec Michel, c'est qu'on a vraiment un rapport de confiance et on est dans le même monde théâtral. Il l'a actualisé totalement, il a actualisé le propos de Plot. Dans cette pièce, il y a une femme qui se fait violer, cette femme n'a pas droit à la parole, est vendue, achetée, il y a des esclaves, comme il y a aujourd'hui des esclaves, mais on ne le dit pas, et c'est la société du fric. La société des riches qui gouverne et le fric règne en maître. Donc on a retrouvé une actualité là-dedans et il a vraiment traité ça.
C'est assez triste d'ailleurs ce constat-là de se dire que finalement ça n'évolue pas, que les cadres restent les mêmes, c'est juste les personnages qui changent.
Ah oui, c'est, ouais. Il nous a fait travailler, déjà dans Maktoff, il nous avait fait travailler sur la Commedia dell'arte. Donc il y a quelque chose là-dedans de la lutte des classes, des pouvoirs, des grands et des petits. Et donc dans la Commedia dell'arte, il y a un peu les classes moyennes, on va dire encore. Ceux qui veulent accéder au pouvoir et ceux qui sont en phase descendante. Et là dans Plot, c'est vraiment que des riches ou que des pauvres. Et il faisait un constat assez troublant, c'était que la société actuelle, c'était beaucoup ça en fait. Ça devenait, on perdait de plus en plus les classes moyennes. En tout cas, lui, c'est ce qu'il a voulu dire avec cette pièce. Et c'est pas loin de la réalité. Donc voilà. Ça fait peur un peu. Mais...
Jeudi 2 février, donc, à Millau, et puis tous ceux qui ont la plaquette de la programmation Art Croisé Contemporain chez eux se disent « Mais les Molotov, on croyait que c'était en avril, leur spectacle au Petit Carré d'Art, mais en avril, c'est Cocktail 8. C'en est où, cette histoire avec Nadège Prugnard ?»
Bah, pour l'instant, on est parti un mois en résidence à Bruxelles, comme l'année dernière pour Cocktail 7, sauf que cette fois, c'était sur Cocktail 8. Donc, on a travaillé en amont, on a cherché, on a creusé autour d'un nouveau thème, comme on aime bien faire. Et on a envoyé toute cette matière à Nadège, donc on va bientôt passer en phase de création avec elle. Mais c'est très chouette parce qu'elle crée à partir de nous. Donc voilà, ça va rester Les Molotov sur un texte de Nadège Prugnard. Et donc on attend le titre, mais pour l'instant, vu qu'elle n'a pas écrit le texte, on ne sait pas le titre, dont le sous-titre sera Cocktail 8. Voilà.
Cocktail 8, bon, on va peut-être finir avec une information logistique et technique par rapport à la réservation. Donc pour mardi soir, réservation fortement conseillée, mais il y a un bug.
Oui, alors pour mardi soir, sur les affiches et sur les tracts et un peu partout, le numéro de téléphone qui est inscrit ne fonctionne pas. Donc si vous voulez réserver, vous pouvez réserver sur theatremolotov@wanadoo.fr, nous envoyer un mail. Ou téléphoner au 06 72 01 52 60. Voilà.
On mettra le numéro sur le site internet. Et Manu, si tu nous entends, est-ce que tu peux mettre ça sur le site internet, s'il te plaît ?
C'est fortement réservé de conseiller de réserver parce que c'est déjà pas mal plein.
Bon, on va vous dire au revoir sur une chanson que tu as choisie, Sarah, Love Buzz. C'est qui ? C'est quoi ?
Nirvana.
Allez. Love Buzz de Nirvana, c'était le choix de Sarah de la compagnie Théâtre Molotov qui vient de franchir la porte de ce studio. On les remercie. Et puis cette fois-ci, on plonge vraiment dans la chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Nouveau rendez-vous de la programmation municipale Art croisé contemporain au Petit Carré d'Art, c'est ce soir avec la compagnie La Zampa. La Zampa ou l'aventure de deux chorégraphes interprètes, Magali Millian et Romuald Luidelin. Ils ont tout récemment quitté l'Ariège pour s'installer à Nîmes et continuer leur recherche artistique autour du corps et son inscription dans l'espace. En résidence depuis le début de la semaine au Petit Carré d'Art, ils proposent donc un spectacle inédit ce soir autour de la thématique 2011-2012 de la programmation Art croisé contemporain. La fièvre du jeu. Voici quelques minutes de ma rencontre avec Romuald.
C'est toujours dur de définir ce qu'on fait, et surtout en danse contemporaine, parce qu'il y a autant de danse contemporaine que de chorégraphes. Et puis à partir de cette réflexion, on est déjà deux chorégraphes dans la compagnie, donc ça peut changer du tout au tout. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une chose nous qui nous intéresse depuis un petit moment, c'est qu'on mène un travail, ou en tout cas une réflexion, autour de la disparition du corps, disparition, quand je parle de disparition, ça peut être l'anéantissement, l'effondrement, c'est pas forcément une disparition morbide, hein, pas du tout justement. Et si on évoque la disparition, on évoque forcément sa reconstruction. Entre ces deux points, pour nous, il y a une forme de défi, en tout cas un défi à l'écriture, une manière pour nous de mettre le corps à l'épreuve et de lui faire avouer... ce qu'il a à l'intérieur, on va dire, très simplement. Mais là, c'est un peu différent, parce qu'on est à Sainte-Afrique, et en fait, on a répondu à une commande, donc de Marie-Josée Nègre, sur le thème « La fièvre du jeu », J-E. Et c'est une commande, donc on s'est vraiment plié à cet exercice et à cette contrainte, c'est-à-dire qu'on a, eu 5 jours de résidence, donc vendredi, ça fera 5 jours de résidence. Il n'y avait rien d'écrit avant, donc 5 jours pour créer et montrer un travail. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de la commande. Donc évidemment, on a réfléchi un petit peu avant, on s'est posé des questions, on s'est dit vers quoi et comment ça peut résonner chez nous et dans ce qu'on fait. Mais on est arrivé dans le théâtre, on ne savait pas ce qu'on allait faire, et on s'est mis au boulot lundi, voilà, en espérant que vendredi, tout soit fini. Même si je pense que vendredi, on va avoir un... Évidemment, ça tient la route, c'est pas le problème, mais on est sur le début de quelque chose, voilà. On est sur cette idée de commande, dans des contraintes de temps, d'espace. Voilà, c'est une commande.
Et du coup, ça vous met dans quel état, justement, d'avoir un temps relativement court, j'imagine, pour travailler ? Ça vous stimule, ça vous...
Comme toutes les contraintes avec présentation à la fin, je vais pas faire les gros bras évidemment dans la pétoche. Créer un travail en 5 jours, c'est pas facile. Et en même temps, on le prend assez légèrement. Mais je pense aussi que ça vient de beaucoup des personnes qui travaillent au Petit Carré d'Art, c'est-à-dire que à la fois Marie-Josée Nègre, moi. C'est une sensation que j'ai, mais je la trouve très courageuse de programmer ce qu'elle programme à Sainte-Afrique et de mener ce travail-là. Donc on se sent accompagné, donc on ne se sent pas en danger, en fait. Oui, on va être en danger sur le plateau. Enfin, c'est surtout Magali qui va être en danger puisque c'est un solo. C'est Magali qui va danser. Mais on se sent accompagné et du coup, je vais dire qu'on se sent un peu protégé. Donc on se sent prêt à mener ce défi en 5 jours de faire un spectacle. Voilà.
Au niveau de la mise en scène, ça ressemblera à quoi ?
Alors, la mise en scène, est-ce qu'on peut parler de mise en scène pour la danse ? Mais oui, on peut en parler. Ça va être comment ? Écoute, il faut venir. Non, ce que je peux dire, c'est que sur la fièvre du jeu, ça nous a fait rebondir, en tout cas Magali et moi, sur plusieurs petites choses, et notamment sur deux figures. Donc, Calamity Jane... et Marilyn Monroe. Alors, sur Calamity Jane, il y a un livre qu'elle a écrit, puisqu'elle a écrit un livre, je ne savais pas, Donc c'est les lettres à sa fille. Donc Calamity Jane avait une fille et elle lui a écrit des lettres tout au long de sa vie, qu'elle ne lui a pas envoyées. Et elle a demandé qu'on lui envoie ses lettres après sa mort. Donc Calamity Jane, pour faire vite, avait une fille. Elle l'a confiée à un couple d'anglais très riche. En fait, elle a abandonné sa fille. Je pense qu'elle ne voulait absolument pas s'encombrer d'enfants et elle voulait absolument et par-dessus tout garder sa liberté, rester dans les plaines du Far West, continuer à vivre avec les Sioux, se battre, boire, se faire des mecs, mais surtout ne pas avoir de famille. Et en même temps, elle a quand même cette chose où elle va écrire tout au long de sa vie des lettres à sa fille qui vont lui être remises à sa mort. Il y a aussi les écrits intimes de Marilyn Monroe, où on découvre une Marilyn beaucoup plus sombre, mais pas plus sombre dans le sens morbide, mais plutôt introspection. On découvre une Marilyn qui écrit des poèmes, qui a un avis sur la vie, qui se pose des questions sur sa vie, qui sait très bien ce qui se passe autour d'elle, entre l'image qu'on a d'elle, de la blonde pulpeuse, que tous les hommes aimeraient avoir dans son lit, tous ses amants, toute sa vie, on va dire, médiatique, et tout le fantasme qu'elle peut générer. Et en même temps, tout ça, elle le sait, elle le maîtrise, elle s'en amuse, et elle essaye, elle aussi, dans une quête d'absolu, comme elle dit dans ce livre, à plusieurs reprises, d'être la plus stupide possible, la plus idiote, pour se rapprocher le plus près de... Je crois que ce qu'elle cherche, c'est une forme de naïveté, pour s'emparer des rôles qu'on lui propose, voilà. D'être dans la naïveté la plus totale pour être la plus sensible, voilà. Et donc dans ces deux figures, à la fois Marilyn et Calamity, il y a toute cette chose très ambiguë, à la fois ces deux personnes s'amusent de l'image que les gens ont d'elles, en sachant pertinemment que ce ne sont pas, évidemment que l'image qu'on perçoit de ces gens-là ne sont pas, c'est pas ça, quoi. Voilà, il y a autre chose, il y a de la profondeur. On s'est appuyé là-dessus, sur ces écrits, qui nous ont donné, évidemment, qui nous ont donné des idées pour écrire la danse, pour travailler l'espace, mais voilà, on en est là.
Tu dis écrire la danse.
Oui. Écrire la danse, ou alors je pourrais dire écrire le corps, c'est-à-dire, je peux pas dire que dans la Zampa, il y ait une écriture de danse comme on peut le voir dans le ballet classique, par exemple. Avec des contes, sur une musique, qui puisse donner une forme de narration. Par contre, dans ce que l'on fait, et ce qu'on va faire à Sainte-Afrique, il y a un parcours, donc du premier pas qu'on met sur le plateau jusqu'au dernier moment où on va sortir du plateau, il y a un parcours, et ce parcours-là, il est écrit dans le sens où on sait qu'on va du point A au point B. Entre ces deux points, il y a des événements qui vont obliger le corps à des contraintes, on va dire, simplement, qui vont obliger le corps à se transformer, à avouer, à bouger différemment, qui vont petit à petit écrire la danse. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus précis comme ça.
Pourquoi le choix du solo ? Vous êtes combien dans la compagnie et pourquoi il n'y a que Magali sur scène ?
Alors, sur cette pièce, on a fait définitivement le choix que c'était Magali qui allait danser. Alors déjà, on est dans la fièvre du jeu, J.E., donc on s'est dit que c'était quand même plus opportun d'être sur un solo. Et ensuite, c'est très compliqué, ça on peut le faire quand on a beaucoup de temps, c'est ce qu'on fait en général sur d'autres pièces, mais d'être... À l'intérieur, enfin sur le plateau et à l'extérieur, c'est assez compliqué d'être dans cette schizophrénie, on va dire. Donc pour gagner du temps, on a décidé de se séparer entre guillemets, et donc Magali sera sur le plateau et moi je suis à l'extérieur. Même si on continue à chorégraphier tous les deux, c'est-à-dire moi je suis à l'extérieur, évidemment j'ai un peu plus de recul, mais Magali propose aussi de l'intérieur. Pour travailler, évidemment. Je ne suis pas le chorégraphe tout puissant assis au milieu des spectateurs, des gradins, en donnant des ordres.
Et quand tu regardes Magali danser, est-ce que tu danses toi aussi ? Est-ce que tu la suis dans ta tête ?
Ah oui, évidemment. Oui, c'est pas... Je pense pas que ça soit forcément moi qui danse dans ma tête, puisque avant même de décider d'être chorégraphe, dans les moments où j'allais voir des spectacles, où j'allais voir d'autres, les spectacles des autres chorégraphes, il m'arrivait, dans les moments que j'adorais, par exemple, de m'apercevoir que j'étais en train de bouger sur mon siège, alors que qu'il se passait rien pour moi. Enfin, je veux dire, j'étais assis en train de regarder un spectacle. Et puis, cette sensation, je l'ai aussi quand je vais voir un concert. Je peux ressentir la musique, on est debout, on peut se mettre à bouger alors qu'on est juste en train d'écouter de la musique. Donc oui, quand je regarde Magali, oui, il y a des moments où je danse avec elle, oui.
Romuald Luidelin de la compagnie La Zampa à découvrir ce soir au Petit Carré d'Art à 20h30. Mio en Jazz lance la saison 2012 avec un concert de blues. Big Daddy Wilson sera sur les planches du Théâtre de la Maison du Peuple à Mio demain soir. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Mio en Jazz présentée par Mathieu Putemans sur Radio Larzac. Et c'est Philippe Ferré qui, vous le verrez, parle de blues aussi bien que de jazz.
On avait fait une première expérience l'année dernière, donc où on s'est rendu compte qu'il y avait un public sur le blues sur Mio et qu'il y avait peu d'offres pour ce public-là. C'est vrai que la musique blues c'est l'origine de pas mal de musique, le jazz en particulier, le rock et bien d'autres musiques. Et même si parfois on a l'impression que les musiciens de blues évoluent peu, là c'est pas le cas puisque l'artiste qu'on invite est un jeune musicien américain qui vit en Allemagne, qui s'appelle Big Daddy Wilson. Et il est sur des sonorités et un style de blues assez original, dans le sens où lui est percussionniste. Il fait donc percus, congas et charleston. Et il est accompagné de deux guitaristes, deux guitares acoustiques.
Et il chante.
Et il chante, exactement. Voilà. Donc avec une voix typiquement blues américain.
Là, c'est très classique pour la voix. Le reste est assez original, l'orchestration...
tout à fait. Et c'est vrai que ça fait du bien de réécouter un peu ces fondamentaux de la musique qui sont le blues. Et pour démarrer l'année, il nous semblait intéressant de pouvoir, en partenariat avec le théâtre, donc inviter cet artiste qui est en tournée en Europe donc, au mois de janvier.
Donc on va écouter un morceau, donc petit concert de blues en attendant que les jours rallongent, ça s'appelle Tumble Ride, c'est le titre de l'album aussi. On the corner trying to tumble ride, cause I just got to see my baby one more time. I wrote a letter, but a letter just won't do. That's why I'm trying to make my way back home to you. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Headed down to Memphis, that's where my good gal be. North Carolina ain't got no hold on me. I done quit my job, so my dog too. I'm doing all I can to get back home to you. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Much money, ain't got much time. I even walk people, Lord knows I ain't high. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Standing on the corner, trying to thumb a ride. Somebody give me a ride. Amen.
man, can I ride a little ways with you? I'll sit in the back. That's all right with me. Headed down to Tennessee, Memphis, Tennessee. That's where my good gal is.
Big Daddy Wilson à retrouver demain sur les planches du Théâtre de la Maison du Peuple à Millau. Et on va achever cette chemise à rayures avec un dernier reportage réalisé par Elsa Decourt. Elle a assisté au vernissage de la nouvelle exposition du lieu dit Les Sages de l'Inde.
Voilà, écoutez, je suis Maurice Chaloub, j'habite Aurillac, près de Saint-Rome-de-Tarn. Et je suis là depuis 35 ans, on va dire. Voilà, j'ai acheté une vieille maison, j'étais parisien. Et j'ai quitté Paris et ses banlieues. Et je suis arrivé à Aurillac. Avec famille et enfants.
Donc ce soir, vous faites une exposition Les Sages de l'Inde.
Voilà.
Vous avez voyagé là-bas ?
Non, je n'ai pas voyagé là-bas, que tout soit clair. Je n'ai pas encore été en Inde, je ne suis pas encore allé là-bas. Mais je suis tombé par hasard un jour sur un bouquin fantastique sur l'Inde qui relatait, on va dire, un grand hommage à l'Inde. Et dans ce bouquin, il y avait des photos, des petites photos de personnages qui m'ont vraiment sauté aux yeux, dont j'ai fait des portraits. Et j'ai, en lisant l'histoire de tout ce monde, j'ai appris qui étaient les Sadhus.
Qui sont les Sadhus ?
Alors, qui sont les Sadhus ? Ce sont des gens qui ont quitté la vie sociale de l'Inde, qui se sont retirés, qui vivent d'aumônes, qui vivent de... Enfin, c'est assez particulier parce qu'en Inde, ils sont acceptés complètement, quoi. L'Inde est un pays, peut-être le seul pays au monde, qui a réussi le tour de force d'intégrer dans la société les gens qui la quittent. Ce sont des gens qui font de l'introspection, qui cherchent la spiritualité. Voilà, donc qui vivent avec presque rien, enfin avec rien, puisqu'ils n'ont rien du tout à eux. Donc ils n'ont pas de logement, pas de bien matériel. Enfin, en gros, c'est ça. Je ne vais pas me raconter toute l'histoire des Sadhus, mais bon, en gros, ils vivent comme ça, quoi. Ce sont des gens qui sont assez étranges, parce que c'est un peu ambigu, quoi, par rapport à la société indienne. Ils ont quitté la société indienne, mais la société les prend en charge quand même. Voilà.
Donc, quel est le livre dont vous êtes inspiré ? Les photos, elles sont issues de quel livre ?
C'est un bouquin qui s'appelle Hommage à l'Inde, dont je me rappelle franchement, je ne me rappelle même pas le nom de l'auteur. Hein. Mais il y avait là-dedans beaucoup de reportages sur l'Inde du nord au sud. Quoi, hein. Les Sadhus, eux, vivent plutôt dans le nord de l'Inde.
Les regards sont absolument magnifiques de vos...
Oui, voilà. Alors moi, je me suis attaché beaucoup, beaucoup à leurs regards, quoi. Et voilà, donc, ils sont... Moi, j'ai rajouté un décor derrière chacun, parce que la photo, il n'y avait que le portrait du personnage. Bon. Alors, ils sont soit vers le Gange, parce que c'est le fleuve sacré là-bas, soit au pied de l'Himalaya, parce qu'ils sont dans le nord du pays. Et voilà.
Quelles sont les matières que vous utilisez ? Est-ce que c'est de l'aquarelle, de l'acrylique ?
Non, c'est de l'acrylique. Uniquement de l'acrylique. Voilà, c'est tout. De l'acrylique, peinture acrylique.
Et vous êtes peintre ou c'est pas du tout votre profession ?
Oui, moi je suis plus dessinateur que peintre, moi. J'ai bossé dans la pub pendant très longtemps quand j'étais parisien. Et puis je suis devenu prof de dessin depuis que je suis dans l'Aveyron. Puis maintenant je suis à la retraite, on va dire, hein, mais je continue à dessiner beaucoup, quoi. Et mon travail est plus du dessin, de l'illustration, on va dire apparenté à de la bande dessinée que de la peinture, quoi. Hein. Bon, non, mais je suis devenu fan des portraits maintenant depuis quelques temps. Je fais beaucoup de portraits et donc les portraits c'est à l'acrylique le plus souvent, quoi. Mais c'est complètement différent de mon travail d'illustration ou de dessin, quoi.
Portrait de sage de l'Inde de Maurice Chaloub à voir au lieu dit jusqu'au 4 février. Et le livre qui a inspiré le dessinateur s'appelle effectivement Hommage à l'Inde d'Olivier Folmy, paru aux éditions de La Martinière. Elsa lit autre chose que les journaux.
Ouais.
Fabuleux. Du coup, aujourd'hui, tu changes un peu de registre.
Ouais, je lis des BD aussi.
Ouh, et alors ?
Ah bah, il y a plein de trucs bien. Voilà. Alors c'est pas forcément très gai, j'avoue que bon. Là pour le coup aujourd'hui c'est pas très gai, mais si on recommence cette petite expérience, j'essaierai de trouver
ça
des BD rigolotes.
Le défi d'Elsa, trouver des choses rigolotes.
Voilà. Donc j'ai trouvé ça à la médiathèque de Saint-Taf, une BD sur Nietzsche avec des textes de Onfray et les dessins de Maximilien Leroy.
C'est un peu élitiste ça, je trouve. Pardon.
Eh ben non, juste justement, pour les gens que la philosophie intimide, qui se disent « moi, je vais rien comprendre » et tout, c'est une très bonne façon d'aborder, alors là, en l'occurrence, la vie de Nietzsche, ainsi que sa pensée et son évolution. Voilà, c'est l'histoire de Nietzsche, hein, de son enfance à sa mort, avec des dessins alors qui sont peut-être un peu austères, enfin, les couleurs sont un peu sourdes, hein, mais je crois que ça donne bien l'atmosphère, une atmosphère, l'atmosphère de la vie de Nietzsche, qui n'était pas très gaie, c'est vrai,
ouais, c'est
même
ça.
S'il a écrit Le Gai Savoir, tout ça, que je n'ai pas lu, j'ai rien lu de lui. Moi, ça m'a vraiment donné envie de lire Nietzsche.
Dis donc.
Ouais. En plus, c'est un personnage, un philosophe controversé, parce qu'il a été récupéré par les nazis, et on ferait là-dedans, mais bien en évidence, qu'il n'était pas du tout antisémite, et c'est sa sœur qui, après sa mort, a récupéré ses œuvres, les a retravaillées, ou fait tout un micmac, et voilà. Oui, il faut que je parle dans le micro. Je voulais juste citer, alors il y a des citations de Nietzsche dans cette BD par moment, il y en a une qui me plaît bien, c'est sur le travail. On se rend maintenant, ne rigole pas, on se rend maintenant très bien compte à l'aspect du travail, c'est-à-dire à ce dur labeur du matin au soir, que cela constitue la meilleure des polices, qu'il tient chacun en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car il consomme une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la méditation, à la rêverie, au souci, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les gens un but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille dur en permanence jouira d'une plus grande sécurité. Et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême.
Gabriel, qui est derrière la vitre, notre stagiaire, devrait noter cette réflexion pour avoir de quoi répondre.
Je te passerai le bouquin, Gabriel, pas de souci. Un autre, alors là, c'est Dan Marianne qui consacre un article à Spiegelman, l'auteur de Maos. Maos, ce sont des bandes dessinées de BD, deux tomes d'une même BD qui sont parus en 87 et 92 et qui racontent la Shoah à travers le récit du père de Spiegelman. Donc les souris sont des juifs, les nazis sont représentés par des chats, les polonais par des cochons.
Non, pas des chats les nazis.
Ouais.
Enfin, pas les... Ouais.
Et donc l'auteur de cet article nous dit que Maos c'est plus qu'une simple BD, plus qu'un manifeste contre l'oubli, tout à la fois œuvre d'art, récit historique, documentaire sur les persécutions nazies, à la manière d'un Shoah de Claude Lanzmann. Alors Spiegelman là, sort Métamaos, qui revient justement sur la jeunesse de Maos. Métamaos est construit à partir d'entretiens avec une professeure à l'université de Chicago, une professeure qui visible, alors elle s'appelle Hilary Schutt. Je ne sais pas comment ça se prononce en anglais. Il paraît qu'elle a posé des questions extrêmement pertinentes. Donc voilà, Spiegelman dit de Meta Maos, « Ce fut dur pour moi de revisiter Maos, le livre qui m'a fait et n'a depuis lors cessé de me hanter. Dur de revisiter les fantômes de ma famille, l'odeur de la mort et l'histoire de mon propre passé. » Voilà, donc on trouve dans Meta Maos des documents inédits. Il y a toutes les esquisses qu'il avait fait pour Maos, des rapports de déportation de ses parents, des carnets intimes, plein de choses.
Croustillant.
Voilà. Ça a l'air très, très intéressant.
Est-ce que tu veux continuer, Elsa, ou c'est au choix? Soit tu continues et on n'écoute pas les ongles noirs.
Non, mais on va écouter les ongles noirs.
On va écouter les ongles noirs. Tête de chien, on va écouter les ongles noirs pour finir cette émission. Tête de chien.
Et on les fait ce qui claque sous les mains des hommes à tête de chien, des gangsters de carnaval. Un monde où toutes les femmes sont des pantins, des poulets élevées en batterie, des neurones inertes. Une jeunesse grandit à l'alcaline et aux 12 volts. Scénario catastrophique, course contre la montre. chute dans le précipice et combattre des monstres. Peur du vide et miniaturisation. Perte du sens, attendez que ça passe. Boucle finale en flux continu. Des tempêtes de confettis et ce mortel ennui. Tuez par correspondance, économisez vos mouvements. Désodorisez, remboursez par échéance. Agression simultanée de tous les côtés. Des prophètes dans la balance recrutent pour des croisades désespérées. Agrandir la taille, rallonger la chaîne. Mais quelqu'un peut-il dire à qui profite vraiment le crime? Le monde est en spectacle, carnaval à plein temps. On a le string autour du cou et de la poudre aux yeux. Un monde où toutes les femmes sont des pantins. Et on les fesses qui claquent sous les mains des hommes à tête de chien, des gangsters de carnaval. Un monde où toutes les femmes sont des pantins.
Tête de chien, des ongles noirs, un des trois CD de la semaine aux côtés de Erwan, Peau Rouge et le groupe Electro. L'accueil, vivement, dans deux minutes qu'on se couche, c'est terminé. Je remercie vivement Chloé à la technique, Elsa, les deux, hein, de Cour et Gourmand, Gabriel, Manu, Philippe, merci à toute l'équipe donc, de Radio Saint-Aff. Je vous signale que demain matin, il y a Radio Cartable à 10h sur les ondes de Radio Saint-Aff. C'est la nouvelle formule de l'émission des écoliers de l'école du Rougier à Mont-Laure. Et puis n'oubliez pas, ce soir, la compagnie Zampa au Petit Carréda à Saint-Aff. Demain, Big Daddy Wilson à Millau, Maison du Peuple. Mardi, Cocktail 7 des Molotov au Petit Carréda à Saint-Afrique. Une expo au lieu-dit de dessin des sages de l'Inde. Et puis une BD qui va vous donner envie de lire Nietzsche. C'est Elsa qui nous l'a dit. Et ça s'appelle Nietzsche, tout simplement. Voilà. Bon week-end à toutes et à tous. Et à lundi, 10h10 ou 17h10, en rediffusion. Salut!